tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parent, c'est le plus beau métier du monde. Alors, pourquoi ne pas le raconter ? À chaque épisode, je recevrai un invité qui racontera sa parentalité ou comment il l'a vécu. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que je suis en présence d'Alexis. Comment tu vas, Alexis ?
Salut, ça va, Ami ?
Bien, et toi ?
Ça va, ça va.
Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, si tu es marié, pas marié ?
Ok, je me présente, je m'appelle Alexis. Acteur associatif, prof de danse, un peu touche à tout. Je travaille pour la structure Urban Talent, parent de, comment on parle, deux enfants et une troisième belle-fille. Et puis, je ne suis pas marié, mais j'ai une copine.
Du coup, tu vis avec les enfants au quotidien ou alors t'es, parce que tu dis que tu n'es pas marié, mais tu es en couple, pas en couple ?
On va dire que je suis en couple et que je vis au quotidien avec les enfants.
D'accord, très bien. Alors, avant de commencer, l'idée, ça va être de te raconter un peu, de comprendre qui était Alexis l'enfant et quel papa tu es aujourd'hui. Donc, on va retracer un peu ton parcours. Est-ce que tu veux bien nous dire dans comment tu es né, dans quelle famille ? Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents ? Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Raconte-nous un petit peu qui était Alexis enfant.
Alors, Alexis enfant, j'ai grandi à Cachan, dans une cité qui s'appelle la Cité Bleue. J'ai mes deux parents, ils sont toujours ensemble, ils ne sont pas séparés. Trois frères, on n'est que des garçons. J'ai un frère jumeau, j'ai un petit frère et j'ai un grand frère. Et après, j'ai des cousins, cousines, mais j'ai une cousine qui a grandi avec nous, que je considère aussi comme ma sœur.
D'accord. En réalité.
Famille africaine, donc il y avait toujours du monde à la maison. Positif avec du sourire, des fêtes tous les week-ends et du coup, grandir avec beaucoup de monde à la maison.
D'accord, tu as dit que t'as un frère jumeau. C'est dur de grandir avec un frère jumeau ou pas, tu nous racontes ?
Grandir avec un frère jumeau, c'est dur. Je sais pas, non, je pense pas. Pour moi, c'était mon frère avant tout. Ma mère, elle a pas fait comme certains parents nous habillaient de pareil, etc. Je sais juste que c'était mon frère jumeau. Très vite, on n'était pas dans la même classe, on a tout le temps été un peu séparés. Et non, c'est pas dur. Peut-être un peu, peut-être au niveau de l'adolescence, ouais. Mais je pense que c'est comme tout adolescent où on avait chacun nos amis, avec chacun nos, on essayait d'avoir chacun nos identités.
Ouais.
Mais paradoxalement, quand elle a déménagé à Lyon, un peu plus, je sais pas, vers l'âge de 20 ans, 20, 21 ans, c'est là où on s'est le plus rapproché.
D'accord.
En réalité. Donc, non, je grandis avec un frère jumeau. Non, c'est mon frère.
Je me suis toujours posé la question, là, c'est pour moi. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui vont se poser aussi, qui doivent se poser la question. Comment étaient tes parents ? Quel était le modèle éducatif dans lequel tu as grandi ? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment était ton papa, ta maman ? Qui pose les règles ? Qui prend les décisions ? Comment ça se passe à la maison ?
Alors, c'était ma mère qui posait les règles. On a été éduqués... Pour moi, quand j'étais petit, à la dure.
Ok. Qu'est-ce que tu appelles à la dure ?
Quand je dis à la dure, je devais faire le ménage, la vaisselle, tout était classifié. On avait, par exemple, le matin, une fois, comme on était quatre, une semaine, on avait une semaine chacun le matin pour faire le ménage dans toute la maison. On avait deux jours de repas chacun. Pendant les vacances, avant de sortir, ma mère, elle avait une liste de tâches qu'on devait faire avant de sortir. Si on sortait pas, on était foutus. Donc du coup, je trouvais ça assez dur, mais avec du recul, et il y a pas plus tard que même la semaine dernière, je l'ai remercié parce qu'elle nous a préparé à vivre ce monde, le monde de grand, le monde d'adulte, qui est pas si facile que ça et qui est compliqué. Et le fait de nous rendre autonomes avec ces tâches là. Ça me permet d'affronter le monde plus sereinement et d'être plus tranquille, en fait, en réalité.
C'est-à-dire que tu es un papa qui cuisine ?
Je cuisine, je fais à manger, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je m'occupe de mes enfants. Et ça peut surprendre pas mal de femmes.
Mais c'est trop bien, hein, franchement. Faut que tu appelles ta maman, là, qu'on donne un spécial parentalité pour toutes les mamans qui ont des fils. Alexis, comment est-ce que
c'est simple, nous, il n'y a pas de...
Bah oui.
Excuse-moi. C'est simple, pour nous, il n'y avait pas de femme à la maison.
Mm-mm.
Donc ma mère, elle a dit... Vas-y, je suis fatigué, hein. Vous allez faire tout ce que vous avez à faire.
Ouais,
mais je trouve ça très bien, en fait, en réalité. Tu vois.
C'est un bon modèle éducatif.
Ouais, exactement.
Et papa, il était comment ?
Papa, il est... en réalité, j'ai envie de te dire, il n'était pas là.
OK.
Ou pas souvent là. Mais ma mère n'a jamais fait en sorte qu'on le remarque.
D'accord.
C'est maintenant, avec du recul, et moi étant parent, et avec du recul, que je me rends compte que Ah ouais, ma mère, elle a bien géré parce qu'elle ne m'a pas fait ressentir l'absence de mon père.
Mm.
Mon père, on est Camerounais, donc il a vécu une ou deux années au bled. Il faisait quand même pas mal d'allers-retours. Et du coup, je peux pas te dire s'il s'occupait de nous ou s'occupait pas trop de nous.
Ouais, t'arrives pas à te souvenir.
Parce qu'en fait, en réalité, c'est maintenant que ma mère, elle nous sort les dossiers. Mais je la remercie parce que du coup, je n'ai pas senti ce manque de père. Et un truc tout bête, hein, mais après, c'est pas dans le jugement, mais elle me disait, ouais, vos pères, il a jamais acheté pour les cadeaux, c'est moi qui le faisais. Mais à chaque fois, je disais, c'est moi et papa.
Mm.
Tu vois. Et du coup, en fait, ça cassait pas cette image-là de ouais, le père ne parle que ça. Pour moi, il était là, il s'occupait. Et en réalité, en vrai, j'ai envie de te dire que dans chaque famille, t'as pas de comparaison, en fait, en réalité.
Non, y a pas de comparaison.
Jusqu'à l'âge d'adulte, tu sais pas que si ce qui se passe chez toi, c'est normal ou pas normal.
Ouais, tu peux pas comparer avec ce qui se passe chez le voisin, quel est le modèle éducatif, etc. C'est le schéma dans lequel on grandit.
Exactement. Et je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais modèles. Le plus important, c'est de chacun son modèle et chacun fait ce qu'il veut. Tu vois.
Avec tes frères et sœurs, ça se passe comment ? T'es comment ? T'es quel genre de frère ? Parce que du coup, t'as quelle place dans ta fratrie ?
Milieu.
Milieu, t'es quel genre de petit frère et de grand frère ?
On a un grand frère très, très calme.
Ouais.
Respect des règles, il suit tout correctement. Je pense frère exemplaire, mon grand frère, un frère modèle aussi, que je respecte beaucoup. Nous, on est les jumeaux, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, on le fait entre guillemets, mais pas de grosses bêtises. Hein, mais voilà, quoi, on est un peu moins calme et après le petit frère aussi calme. Donc nous, les deux, les jumeaux, à chaque fois, on sait que teinture, piercing, tatouage, mon père venait le tuer alors que mon grand frère il n'est pas dans tout ça.
Ouais, il n'était pas là-dedans.
Ouais.
À l'adolescence, tu nous parles un peu de l'adolescence, comment ça se passe ? Est-ce que tu es un enfant obéissant qui écoute ou est-ce que bon après tu nous as parlé un peu des petites bêtises gentillettes que vous faisiez avec ton frère jumeau, mais quel genre d'adolescent t'es ? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux ? Est-ce que au niveau de l'école ?
Très introverti.
Okay.
Très, très, très introverti, timide.
Okay.
Je ne pourrais pas dire pas sûr de moi, mais juste très introverti et très timide. On va dire que c'est la rencontre avec la danse qui est mon métier actuel, là, qui m'a fait... m'a extraverti.
Okay.
Et puis, du coup, des personnes que j'ai rencontrées étant adolescent, qui étaient l'inverse de moi. Moi, on va dire que je n'étais pas dans les bagarres, je n'étais pas dans les embrouilles, j'étais toujours calme dans mon coin. Et du coup... Je faisais yin et yang avec des amis à moi, mais très introverti, adolescence.
Donc aujourd'hui, tu es danseur professionnel.
Ouais.
Tu as aussi ton association.
Exactement.
À quel moment tu fais tes premiers pas dans la danse ? Comment ça se passe ? Est-ce que dans ta famille, c'est sport obligatoire pour tous ou pas ?
Oui, dans ma famille, ma mère, mes parents, ils apportent une place importante à des activités extrascolaires, c'est-à-dire que en septembre, on devait choisir une activité, qu'on le veuille ou non. Mais bon, on était sportifs, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du foot, j'ai fait du hand. Comme j'étais sportif, j'avais toujours un bon niveau, donc comme toujours. Ensuite, le foot, ça m'a un peu saoulé parce que vers l'adolescence, vas-y, de faire du foot quand il fait froid, c'est un peu chiant sous la pluie. Donc j'arrête le foot. Je me mets à la danse en suivant un ami qui dansait.
Et puis, tu commences par quoi comme danse ?
Debout, avec l'association de la ville, Ultimatum Step,
okay.
Avec qui je suis très proche. Et du coup, mon premier cours de danse, c'est comme ça, je le fais comme une autre activité, pour suivre les amis en fait, en vrai. Et puis après, voilà, je suis mon chemin. Mais quand je commence, je ne me dis pas que je vais te faire ça mon métier.
Mm.
Commence comme ça parce que j'ai envie de danser, peut-être au début pour impressionner les filles.
Ça et après, au fur et à mesure.
Non, parce que je suis timide.
Ouais, ok.
En fait, en réalité, je ne suis pas une personne qui va vers les gens. En fait, foncièrement, je suis dans mon coin, moi, et j'attends que les gens viennent vers moi. Parce que je ne fais pas le premier pas, c'est dans ma nature. Et du coup, de fil en aiguille, parce que aussi j'ai fait de la compétition avec truc, je se retrouve à faire des compètes, et puis on a envie de gagner, donc pour gagner il faut que tu t'entraînes, donc tu t'entraînes un peu tout le temps, un peu tous les jours. Comme tu as un groupe d'amis qui sont dedans, tu le fais comme un jeu, mais en fait en réalité tu t'entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après voilà, c'est là que la passion vient, quoi.
Du coup, on comprend bien que dans ton adolescence, dès lors que tu commences la danse, ça prend beaucoup de ton temps.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression que ça t'a évité de faire de mauvais choix, de mauvaises rencontres, ou est-ce que pas du tout?
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Ouais, clairement. Bah, le fait que en extrascolaire je sois occupé par ça, bah ça me laisse moins le temps à rien faire. Du coup, je traîne pas au quartier parce que j'ai des entraînements ou parce que j'ai des compétitions le samedi, le dimanche, ou parce que je suis avec mon groupe de potes, donc on est dans une salle de danse et on n'est pas dehors. Donc clairement, oui, je pense que j'avais aucune raison de le samedi ou le dimanche ou le soir de traîner parce que j'avais des entraînements ou parce que je devais danser ou parce que je devais voir mon groupe de potes pour parler de la danse. Et voilà quoi.
Ok, on va avancer un peu dans l'âge, on arrive sur tes 17 ans, j'aime bien la 17e année à l'aube de l'âge adulte. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu vas en cours? Est-ce que ton avenir se dessine un peu? Tu vas rentrer dans ta majorité? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu te vois être parent? Comment ça se passe dans ta tête à 17
ans?
Non,
ouais, 17 ans, danse. Hein.
Danse?
Danse, lycée, un peu populaire grâce à la danse. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et que du coup, dès que tu fais un truc autre et que tu commences à bouger un peu plus, ça parle plus facilement de toi dans le lycée. Et après, des spectacles aussi dans la ville ou dans d'autres villes du secteur. Donc, tu commences à être populaire. Et non, j'étais danse et puis études. Hein. De toute façon, c'est simple. Mes parents, ils étaient stricts. Fait que j'étais obligé d'aller à l'école. Et... Enfin, y a pas de... Ils faisaient attention à mes notes et tout ça, etc. Donc, je ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi. Quoi
on suivait arrive. Ta scolarité.
Bon, on suivait ma scolarité. J'avais un suivi et... J'avais pas trop le choix en fait en réalité.
Du coup, tu continues tes études, tu poursuis dans la danse. Tu nous as dit un peu plus tôt que tu étais timide. Les premiers amours sérieux, ceux avec qui tu te projettes, ils arrivent à peu près vers quel âge?
Premier amour. Ouais, 18-19 ans. Hein.
18-19?
Ouais, 18-19 ans.
Ok, 18-19 ans, t'es en relation, est-ce que ça devient sérieux? Est-ce que tu te dis, bah tiens, je m'installerai bien? Est-ce que tu te projettes avec une vie de famille ou pas encore? Ou ça
non,
arrive bien plus tard?
Franchement, moi, je ne suis pas dans cette réflexion-là. Hein.
Ouais.
Je mène ma vie comme sans trop réfléchir, j'avance step by step. Et je ne suis même pas dans une projection de tout ça. Même si je m'installe avec ma copine, la copine de l'époque, c'est tout, je fais tout naturellement en fait. Je ne me projette pas plus que ça.
Et elle non plus?
Non, je n'ai pas l'impression que. Non. Moi, tant que je danse, que j'ai ma copine et puis que je travaille ou je ne travaille pas, ou que je travaille, voilà quoi.
Je
n'étais pas dans cette, je suis pas dans cette réflexion de me projeter à plus tard, même projeter à faire des enfants ou à être parent, j'étais pas dans ça. J'étais en train de mener ma carrière. Ma copine a dansé aussi. Voilà quoi. J'avance.
Du coup, vous restez combien de temps ensemble, à peu près?
6-7 ans.
6-7 ans.
Ouais.
Bien plus tard, donc j'imagine qu'il y a une rupture, puisque c'est plus ta copine actuelle. Je te pose la question, hein, parce que bientôt, peut-être qu'on aura des parents polygames à parentalité. Donc, et puis, tu rencontres la femme avec qui tu vas faire des enfants.
Ouais.
Est-ce que tu nous racontes cette rencontre? On est des curieux, on veut savoir comment vous êtes rencontrés.
Rencontre, j'interviens dans les écoles.
Ok.
En fait, en réalité, elle m'avait rencontré, elle m'avait déjà vu, mais en vrai, moi, je suis quelqu'un de tête en l'air.
Ok.
C'est-à-dire que même en dansant, tu vois plein de gens, tu rencontres plein de gens, tu dis bonjour, au revoir, et je calcule pas moi plus que ça. Tu vois, je fais ma vie, je rigole, je suis avec mes amis, et donc voilà quoi. Et en fait, c'est la cousine d'un ami à moi.
D'accord.
Donc du coup, elle m'avait déjà vu, mais elle n'avait pas la même coupe et tout, etc. Bon, bref, ça, c'est après qu'elle me dit ça. Donc, je crois que la première fois que je la vois, c'est dans une école, parce qu'elle était animatrice. Et moi, je faisais des interventions, tu sais, comme prof de danse.
D'accord.
Dans les écoles. Donc, elle m'a vu une année avant. Et je n'avais pas calculé, mais je crois qu'elle m'avait déjà calculé, mais je n'avais pas calculé. Je la revois l'année d'après. Et un ami à moi, qui était aussi un des intervenants, prof de sang, d'ailleurs, dédicace à Julien. je crois qu'il la dragouille un peu. Et puis, il dit, comme il chante, il dit, bah, viens me voir au spectacle. Viens me voir. Je joue à... Je crois que c'était où tout le monde en parle, à Montparnasse.
Okay.
Je chante et tout, nan, nan, etc. Moi, j'arrive, j'avais 5 minutes de retard. Et puis, on rentre dans la conversation et tout, etc. Tu connais un peu, tu rigoles un peu, etc. Et après, je lui dis... et après, je crois qu'elle elle dit, oui, j'ai pas de voiture, je sais pas quoi. Et puis, ça tombe bien. Il me dit, ça tombe bien, Alexis, là, sa voiture. Si tu veux, il peut t'accompagner. Bon, t'es pas du tout allé au tout.
Donc, tu rentres avec le plan de ton pote.
Ouais, en fait, non, lui, ouais, oui, je sais pas, en fait, en réalité. Mais en fait, bien après, je crois qu'elle était sur moi et elle savait très bien ce qu'elle faisait.
Ouais, d'accord.
Et genre, moi, je pensais que... Mais en fait, c'est elle qui m'a carotte.
Ouais, ta carotte.
Ouais,
voilà, clairement.
Clairement, tu vois. Moi, je pensais que... Et du coup, le soir, elle m'envoie un message sur les réseaux. Je crois que je ne sais plus comment... Je ne sais pas comment elle fait le truc, là. Et du coup, moi, je suis content et tout, t'inquiète, etc., tu vois. Et du coup, on se met à parler ensemble et tout, etc. Et moi, je dis à Julien, je dis, ah, tu vois, elle m'envoie un message et tout, nanana. Donc, on rigole, tu vois, comme entre potes et tout, etc. Et puis, vendredi, on devait tout le monde en parle. Et puis, finalement, elle ne pouvait pas y aller. Parce que justement, je crois qu'il y avait sa fille ou je sais pas quoi. Finalement, elle m'invite chez elle. Et je lui dis, ah, je viens, je dis, ah, mon pote, dont tout le monde parle, c'est bien joli, mais elle m'invite chez elle. Donc, du coup, je vais chez elle. Et elle me fait à manger en plus.
Donc salut ton concert.
Ton plan, voilà. Il y a sa fille et tout, etc. Donc, voilà, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais en fait, bien après, elle me disait qu'elle me connaissait déjà.
Ouais, qu'elle t'avait déjà repéré, en fait.
Qu'elle avait déjà fait son cheminement. Moi...
T'es tombé dans le filet.
Ouais, j'étais pas. J'avais aucun. Je savais même pas que c'était la cousine de tel truc. Je savais pas qu'on s'était vu avant. Tu vois.
Ouais, comme quoi.
Donc voilà, comme
tu
quoi.
Tu pensais que tu menais la barque.
Ouais, je pensais que c'est moi qui
étais dans le filet.
Qui... Ouais, voilà.
Tu pensais que t'étais le pêcheur alors que t'étais
voilà,
poisson.
Que de, voilà, exactement.
Tu nous dis qu'elle est maman. Donc, ouais. Parce que tu nous dis que tu rencontres sa fille. Donc, quel âge a sa fille à ce moment-là
Elle a 7 ans.
Ok, 7 ans.
Ouais.
Comment se passe la rencontre? Est-ce que au moment où tu vas chez elle, il y a des doléances particulières de ta copine à ce moment-là, qui n'est pas encore ta femme?
Ouais.
Est-ce que elle te met en garde? Attention, là, tu vas rencontrer ma fille, ça devient sérieux ou pas du tout?
Non, franchement, non. Naturellement, non, parce qu'en fait, moi, j'étais moi, comme d'hab. Moi, je calcule rien, je suis insouciant, toi, tranquille. Hop, là, elle m'invite, je vais manger. Elle sait bien faire à manger, je mange bien. Sa fille, je crois que je la crois. Au premier croisement, je crois qu'elle est. Sa fille, elle va chez. Du coup, je crois qu'elle a envoyé sa fille chez une copine à elle,
ouais, okay,
de l'immeuble, tu vois. Et elle me voit, sa fille. Je crois qu'elle me regarde, elle me fait un petit clin d'œil. Et après, elle monte et tout ça. Et c'est là son premier rencontre, etc. Donc, non, elle ne me met pas en garde avec, avec sa fille. Non, voilà, quoi.
Et donc voilà, cette rencontre a lieu. Ouais. À quel moment vous décidez que ça devient sérieux? Est-ce que vous décidez que ça devient sérieux? Est-ce que vous commencez à parler d'éventuellement une installation ensemble? En plus, tu me dis qu'elle est déjà maman, donc elle a déjà une première expérience. Quelle est la place d'ailleurs de ce papa pour... on peut la nommer, cet enfant?
Ouais.
Elle s'appelle
Neza.
Neza.
Ouais, Neza.
Ok. Et comment est son papa Neza? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que du coup, c'est un obstacle dans le couple ou pas du tout?
Non, son papa, il n'est pas présent. Il y a des complications entre le père et la mère.
D'accord.
Je pense comme beaucoup de séparations. Et du coup, elle ne le voit même pas, en fait, à ce moment-là. Donc, c'est sa mère qui élève sa fille seule.
D'accord.
Et du coup, même son père, moi, j'ai...
Ok, donc...
Pour la première rencontre, je... Non, j'en ai pas
parlé. Et jusqu'à aujourd'hui?
Si, maintenant, elle le revoit, mais il habite à Biarritz. Du coup, elle le voit pendant les vacances. Du coup, elle est plus grande maintenant. Elle a 14-15 ans. Elle a son téléphone. Si elle veut l'appeler, elle peut l'appeler.
D'accord.
Et voilà, quoi.
Mais donc, tu t'inscris dans une famille, enfin, en tout cas, dans un schéma avec une femme qui élève seule son enfant.
Ouais.
Mais pour l'instant, vous n'avez pas d'enfant, vous, en commun. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est une projection? Ouais. Ou est-ce que c'est j'ai déjà mon enfant, tu viens, tu rentres dans ma vie, mais pas d'enfant supplémentaire? Comment les choses, elles s'articulent?
Franchement.
Même moi, si j'ai compris que tu étais.
Ouais, non, mais en fait, ça vient, tu vois, mais... En vrai, c'est ça, en fait. C'est que moi, je suis relax, moi. Et en fait, comme tu me dis, oui, est-ce qu'on se met ensemble ou est-ce qu'on ne se met pas ensemble? Je lui en ai jamais parlé. C'est la vie, elle s'est faite au fur et à mesure, etc. Est-ce qu'on habite ensemble ou est-ce qu'on n'habite pas ensemble? Je n'en ai pas parlé. En fait, tout se fait naturellement. Mais en vrai, c'est elle qui, c'est elle qui gère, qui me gère.
C'est elle qui
gère. Ouais, du début à la fin, tu vois.
De toute façon, t'es filaire, en fait.
Elle sait, voilà, elle sait où est-ce qu'elle est. Et ce que j'aime, parce que là où elle a été très forte, c'est que moi, je suis un électron libre. C'est-à-dire que je suis un électron libre, je suis un artiste. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans ma bulle. Mm. Je fais, je sais pas, je suis dans, je sais pas, je fais... Comme ça, je me projette pas, je suis là, je vis ma vie. Ouais, je vais danser, je veux voir mes potes, je vois mes parents et tout, etc. Et petite, et tu vois, du coup, si elle m'aurait dit, bon, alors on est ensemble, on n'est pas ensemble, alors ouais, non, est-ce que c'est ça, etc.
Ça t'aurait fait fuir.
Ah, j'aurais fui directement. Mm. J'y vais, on vit, tu vois, mais non, tranquillement, tu vois. Au fur et à mesure, elle sait, elle a remis, elle a, il y a mes affaires, elle lave mes vêtements, donc au fur et à mesure, il y a des piles d'affaires qui restent à la,
qui
maison.
Restent à la maison.
Au fur et à mesure, ouais, je t'ai acheté un petit yaourt que t'aimes bien, mm. ou après l'entraînement, ouais, j'ai fait à manger, tu passes, donc moi, étant que bon mangeur. Bah, je suis obligé de passer manger, tu vois.
Bah ouais, ça se refuse pas une assiette.
Du coup, au fur et à mesure, etc. Donc, et à ce moment-là, j'avais redéménagé chez mes parents pour avoir économisé parce que je comptais acheter un appartement.
Okay.
Donc, j'étais plus chez ma mère. Et ma mère, elle est très proche de nous, etc. Sauf que ma mère, au bout d'un moment, elle ne me voit pas rentrer pendant tu sais, deux jours, trois jours, etc. Elle me dit, t'es où? Et moi, je ne suis pas, pas africain. Je ne peux pas dire que je suis une femme et tout, etc.
T'as quel âge à ce moment-là?
J'ai très bonne question. On va me tuer. Moi, les dates. 30 ans.
Ouais, 30 ans. De toute façon, tu as dit que ta belle-fille avait 14 ans.
Ouais.
À l'époque, elle en avait 7.
Ouais.
Donc, c'était il y a 7 ans.
Ouais.
OK. Tu as quel âge, là?
39 ? Ouais, voilà.
OK.
J'avais 30 ans. Et d'ailleurs, la présentation avec ma mère, elle était archi marrante.
Tu nous racontes?
Ouais. comme je dormais souvent chez elle et que ma mère, elle s'inquiète beaucoup parce que. Ma mère, elle est comme ça. Enfin, ma mère, tout le monde sait, ma mère, il ne faut pas soucier à ses quatre enfants.
Ok.
Tu vois, très protecteur. Et s'il m'arrive un truc, un genou blessé ou je ne sais pas quoi, elle déboule direct. Tu vois, c'est ma mère. Ses enfants, c'est ses enfants. Et tu vois, surprotectée, c'est tout. Et du coup, elle me dit, ouais, t'es où? Tac, et tout. Je dis, ouais, je ne sais pas. Ou elle ne me pose pas de questions. Moi, j'esquive, je reviens, je repars, etc. Tu vois. Et à un moment, je lui dis, bon, je crois, au bout de quelques mois, tu vois. Je crois le matin, parce qu'elle était dans l'animation, donc je crois commence à 11h. J'y viens vite fait, on va voir ma mère, vite fait, etc. Tu vois, je disais comme ça. Donc j'arrive, pas en mode, je ne vais pas faire un truc solennel, ou je sais pas, je dis vas-y, viens, je vais chercher un truc, et tout, etc. Et tout. Tac, j'arrive, on va chez moi, et tout, etc. Ouais, maman, ça mêle. Ouais, maman, ça mêle, là, tu vois. Je prends un truc vite fait, je repars, tu vois. Et après, je dis à ma mère, bon, voilà où je suis quand je suis pas là, tu vois.
Voilà, ouais, comme ça au moins c'est dit.
C'est un truc
mais c'est furtif quand même.
Voilà, tu vois. T'inquiète.
Mais Amel, elle se sent bien à ce moment-là?
Ouais, elle se sent bien.
Ouais.
Moi, je pense qu'elle se sent bien, ouais.
Ok. L'arrivée de ce premier enfant, du coup, comment ça se passe? Alors, on a compris, on ne s'installe pas vraiment, ouais. On pose les bagages un peu, pas c'est trop. Au moment où elle tombe enceinte, c'est quelque chose qui est prévu, c'est quelque chose qui vous tombe dessus?
Ouais, c'est quelque chose qui nous tombe dessus.
Ok, donc c'était en fait, pas ce spécialement
est, ouais, prémédité. Ce qui est ouf, c'est que je m'étais dit, moi, tu sais, tu fais ce côté projection. Mm. Ouais, tac, là, ouais, là, donc dans deux ans, tac, ouais, là, on va faire l'enfant et après...
Ah, donc tu te projettes quand même.
Ouais, à un moment, dans ma tête, je m'étais projeté et tout, etc. Tu vois. Mais, sauf que quand elle tombe enceinte, c'est comme l'annonce qu'elle est enceinte, c'est archi marrant. Très impulsif. Tunisienne sans chaud, tunisienne marocaine sans chaud. Un matin, je sais pas pourquoi, elle pète les ponts, elle s'énerve contre moi. Et du coup, elle part à 7h du matin de la maison. Je sais pas pourquoi. Énervée, je sais pas quoi, c'est la guerre et tout, etc. Et je crois à midi, 13, non, ou à 11h, elle me dit, ouais, il faut qu'on se parle. Et moi, j'étais énervé, tu vois.
Ben ouais.
Je dis, donc vas-y, qu'on se sépare ou je sais pas quoi. Je sens pas pourquoi, tu vois, tout. Elle dit non, mais il faut qu'on se parle et tout, dans etc. Je dis vas-y, bah, ce soir après mon entraînement. Elle dit non, maintenant, et je sais pas quoi. Comme elle sait que moi, mon emploi du temps, il est à peu près tranquille et tout, etc. Elle dit non, mais il faut qu'on se parle, etc. Tu vois. Et moi, je me dis ouais, truc de... je me dis bah, vas-y, on va se séparer, tranquille, tu vois. Et tout.
Toi, dans ta tête, c'est vu comment elle était énervée ce matin et vu ouais, comment les pas, choses se passent, elle veut me quitter. Mais...
Ouais, non, et en plus, moi, tu connais la fierté d'un homme, vas-y, tu vois. C'est fini, vas-y, tu vois. Pas me prendre la tête, tu vois. Et
la fierté mal placée, t'as
ouais, la fierté d'un homme, l'ego.
L'ego.
Tu vois, on est toujours comme ça, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'elle me montre, elle met son, le test grossesse dans une boîte de pâtisserie. Elle me dit, tiens, tout ça. J'ai dit, ah, t'as acheté un gâteau. Et après, elle me dit que c'est, je sais plus, c'est le premier truc qu'elle a trouvé dans une boulangerie et tout. Et du coup, je vois le test de grossesse et tout, etc. Tu vois. Et en fait, sur le coup...
Tu sais ce que c'est un test de grossesse et tout.
Je sais ce que c'est qu'un test de grossesse, mais je sais pas comment on lit. Tu vois, ouais. Parce que c'est ça, c'est vos trucs de femme, là. Dès que ça va pas, hormonalement parlant, je fais un test de grossesse où je sens dans mon corps que là, etc.
C'est pas vrai.
Du coup, je vois le test de grossesse. Et du coup, je me dis, bon, si c'est un test de grossesse, donc c'est-à-dire que ça doit être enceinte. Si tu me dis, oui, elle me dit, oui, les barres, là, là, et vos histoires de barres, là, sur le sending blue, je comprends
c'est
rien.
C'est pas
du
nos
tout.
Histoires.
Et tout, etc. Et tout. Et du coup, là, c'est comme ça que j'apprends qu'elle est enceinte et tout. Mais sur le coup, je réalise pas.
Du coup, qu'est-ce que tu ressens quand tu commences à réaliser et que ça se concrétise, je vais être papa?
Franchement.
Est-ce que tu te dis d'ailleurs, je vais être papa?
En vrai, sur le coup, quand elle m'envoie, quand elle me montre de trucs, je suis content. Mais vas-y, content, content, normal. Tu vois? Et 4-5 jours après. Elle met la musique, Le Roi Lion, Ivy en toi, je sais plus quoi. Là. Mm-hmm. Tu vois, c'est quelle là et tout. Je crois qu'il est 6h du matin. Et je sais pas pourquoi elle le met. Bah, je me mets à pleurer.
Là, ah, là tu commences à comprendre.
Et, tu vois, mes larmes, elles coulent. Et dans ma tête, je dis, ouais, je t'appelle, pourquoi tu pleures?
Ouais, bah.
Et en fait, c'est là où je me dis, ouais, je vais être papa. Nanani, nanana, nanana. C'est cette musique-là. Mm. Et, où elle est passée, peut-être elle est passée à la télé, tu vois. 6h du matin, etc. Et tu sais, mes larmes, elles coulent. Mais en fait, elles coulent. Je ne contrôle pas, en fait. Je dis, mais wesh, etc. Tout. Elle me dit, ah, mais qu'est-ce que t'as, etc. Je sais pas, tu sais, ça peut à tout. Donc, c'est là où j'ai réalisé 5-6 jours après que, ouais, bon, vas-y, je vais être père et que nana, etc. Tu vois.
C'est très beau ce que tu dis là.
Ouais.
Les parents de Amel, ils sont comment? Est-ce que ce sont des parents qui vont être, qui sont proches de vous? Est-ce que vous, comment vous annoncez ça à ses parents, à tes parents?
Les parents d'Amel, ils sont pas là.
Ils sont pas là, ils font pas partie du tableau depuis le départ?
Ou, non, ils font pas partie du tableau.
Ou c'est à ce moment-là qu'ils...
Non, il n'y a que sa mère qui est là.
D'accord.
Elle est très compliquée. Elle a une histoire de famille très compliquée. Donc, ils ne sont pas là.
D'accord. Bon, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir Amel pour qu'elle nous raconte sa propre histoire.
On va te raconter son histoire. Ouais.
Mais, du coup, cet enfant arrive. Ça y est, vous êtes prêts. Il va arriver. Est-ce que vous commencez à faire des projets pour cet enfant ou pas du tout? Est-ce qu'on continue à y aller à l'aveugle ou est-ce qu'on commence à cadrer les choses?
La vie, elle est bien faite, je trouve. La vie, elle est bien faite parce que 9 mois, en fait, tu as des étapes dans les 9 mois.
Mmh. Raconte-moi.
Le sexe.
OK.
Enfin, quand tu apprends le sexe, c'est une fête déjà, tu es content. Après, quand tu apprends le sexe, le nom, ça aussi, c'est une mission parce que tu te dis, ouais, le nom que je vais donner à mes filles, c'est toute leur vie que ça leur suit. Du coup, en fait, tu es dans un débat, mais ça te prend le temps, etc. Après, tu prépares la chambre, les trucs, les vêtements, etc. Parce qu'en fait, en réalité, notre enfant, il a rêvé 7 ou 8 ans après sa première fille.
Ouais.
Et du coup, en réalité, c'est pas qu'elle a oublié, mais...
Tout est à refaire.
C'est tout à refaire et c'est pas comme si c'était récent, tu vois. Mm. L'annonce aussi à la grande. Et toutes ces étapes-là, en fait, en réalité, tu te rends compte que tu évolues, que quand elle arrive à 9 mois au terme, en fait, tu dis, ouais, t'es prêt. Et toi-même, dans ta tête, en tant que père, parce que nous, on ressent rien du tout de ce que vous avez, tu vois. Et bien là, en fait, c'est là où je me dis, ouais, en fait, ces 9 mois-là, ils m'ont fait mûrir d'une manière de fou. Et tu prends conscience de plein de choses. Et tu te dis, et tu as le temps, en fait, à 9 mois. C'est pas comme si tu me dis, oui, je suis enceinte, et demain, tu t'accouches. Et là, tu as 9 mois pour te préparer.
Tu deviens papa pendant les 9 mois. Tu dirais ça, toi, Alexis?
Ouais, pour moi,
tu deviens papa pendant les 9 mois de grossesse.
Ouais, voilà, je pense.
L'annonce du sexe.
L'annonce
l'émotion
du sexe,
qui te traverse?
Non, pas d'émotion particulière.
Fille, garçon?
Fille.
Ok, tu ressens rien?
Je suis content qu'elle est enceinte et que j'attends un enfant, tu vois.
Ok. L'annonce à sa sœur, à sa grande sœur? T'appréhendes
ouais,
pas, facile,
cool.
Pas facile?
Non, tout. Franchement, moi, c'est une grossesse, c'est merveilleux. L'arrivée d'un enfant dans une famille, c'est une bénédiction pour moi. Et je chasse les trucs négatifs et tout est positif, en fait, en réalité. Et après, je suis une nature de quelqu'un de positif déjà à la base. Donc, l'arrivée à l'annonce à sa sœur, c'est quoi? Bah, elle est. Ouf, non, ouais, là, elle, la première. Non, on lui a dit, maman, attends un enfant, etc.
C'est passé crème.
Ouais, c'est passé crème. C'est sûr, on était déjà à 3, tu vois. Donc, moi, je me considérais un peu comme son père, entre guillemets, je la gérais déjà. Et là, sa mère ne me mettait pas de barrière par rapport à ça. Donc, quand je me suis mis avec elle, avec mes amis, ils la voyaient beaucoup avec moi, tout le temps avec moi. Et moi, je la soulageais, en fait, c'est ma fille. Je la soulageais aussi parce que d'être tout le temps avec sa fille de temps en temps, je la prenais, etc. Et voilà, tout se passait bien. Hein.
Choix du prénom, qui a le dernier mot?
Elle.
Elle?
Moi, je suis pas relou, moi.
Et comment s'appellera ce deuxième enfant, du coup?
Iman.
Iman. Donc, ouais. Choix du prénom, ça s'est fait. La perte des os. Est-ce qu'elle perd les os, est-ce qu'elle perd pas les os? Le moment
non,
où ça y est, c'est là, elle va accoucher. Comment ça se passe?
Le problème, non. C'est qu'elle a fait une césarienne et moi, j'ai pas pu assister à l'accouchement.
Okay.
Parce qu'elle était placenta couvrant. C'est ça? Elle avait un placenta couvrant, donc c'était une grossesse à risque. Du coup, on nous a donné la date.
Avant.
On savait déjà. Et en plus, comme c'était à l'hôpital de Longjumeau, je crois que la partie maternité était en train d'être faite. Elle devait aller dans un autre bloc. Et
Le papa ne pouvait pas assister à la césarienne.
Moi, je ne pouvais pas assister. Et en plus, ils ont fait une dinguerie. C'est que moi, j'ai vu ma fille une heure après. Parce que, les infirmiers, comment ils dialoguent, j'allais les tuer.
Du coup, pour toi, cette rencontre, en tout cas, avec ton enfant, donc, c'est un accouchement qui est programmé.
Ouais.
Tu sais déjà qu'il est à risque, donc il y a une part d'inquiétude, pas d'inquiétude. Tu es un peu inquiet ou pas?
Je suis inquiet quand je n'ai pas de nouvelles de ma femme, parce qu'on me dit que ça prend un quart d'heure et que ça fait 30 ou 40 minutes que je n'ai pas de nouvelles d'elle. Je suis inquiet à ce moment-là, ouais. Et manque d'informations. En fait, ce qui m'a dérangé à l'hôpital, c'est qu'il me parlait comme si j'avais l'habitude d'avoir 20 enfants.
Ouais, c'est normal.
Et ma première fille, je ne connais aucun, je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne connais rien. Au moment où je la laisse pour qu'elle accouche, on me dit, oui, il faut aller en bas, là. En bas, où, quoi, cause, comment, où, j'attends quoi, comment, tu vois, on me dit rien du tout. Et les infirmières ou le personnel, ils font comme eux, ils accouchent tous les jours, tout le monde est...
Ouais, tout est logique pour eux.
C'est pour mon premier enfant, tu vois. Et après, j'ai pas de nouvelles. Ma mère, elle est là. Ma mère, elle était en bas déjà depuis, depuis 10 heures. Ouais, elle était là. C'est ma daronne, dès que c'est les petits-enfants, c'est la même chose. J'ai sa copine aussi, j'ai pas de nouvelles. Moi, je marche dans le couloir, je leur demande, non, mais on sait pas, et je suis obligé d'insister 2-3 fois. Je dis, ça fait... On m'a dit, ça dure un quart d'heure, ça fait 40 minutes, j'ai pas de nouvelles. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et c'est une infirmière qui vient de prendre son poste, qui va, elle revient, elle me dit, venez. Et puis là, je vois ma fille, elle est là.
Normal.
Ouais, normal. J'avais un seum.
Tu m'étonnes.
Après, je vois ma fille, tu vois, mais tu vois, le double émotion. C'est-à-dire que ça n'a pas. J'ai pas eu le temps de cette rencontre-là, de profiter de cette rencontre-là.
Ouais, ça gâche un peu le moment.
Et en plus de ce truc-là, j'étais en train de dire, bon, vas-y, faut que je prenne des photos. Je peux pas laisser toute seule. Mais si elle a pas de nouvelles de trucs et tout, etc., c'est n'importe quoi. J'étais dans une tension, je vois ma fille et tout, tac, et
en
tout
plus,
ça.
En plus, tu vois ta fille, elle n'est pas avec sa mère.
Elle est en couveuse. En fait, ce qui m'a rendu ouf en vrai, c'est que je vois ma fille en couveuse, je vois deux autres enfants en couveuse, et du coup, donc vas-y, c'est-à-dire que dans ma tête, je dis, vas-y, pendant 30 ou 40 minutes.
Les premiers instants de ta vie.
Genre, ma fille, elle, le daron, il n'est pas là, alors que j'étais dans la pièce à côté. Tu vois? Après, c'est fait. Après, qu'est-ce que tu dis? Ils ont fait n'importe quoi et. Après, je devais me dépêcher de prendre des photos et remonter. Par chance, on avait pris une chambre dans mon simple, mais je ferai plus de place, donc une chambre double. Je remonte en balle pour dire, si ma femme, elle arrive, tout va bien, l'enfant va bien. Et je vais, parce que tu es obligé d'attendre une heure ou deux heures.
Oui, le temps qu'elle sort de la salle de réveil.
Donc voilà, quoi. Mais bon, après...
C'est merci pour ce témoignage, parce que souvent, on se dit la place des pères dans tout ça, comment ça se passe. On parle beaucoup des pères qui ne sont pas là et qui ne veulent pas être là, mais du coup, là, toi, c'est clairement l'équipe qui te met de côté. On ne t'intègre pas dans la démarche, dans l'accompagnement de ton enfant qui naît. C'est toi qui vas à la chasse aux infos. Et merci pour témoigner parce que certainement qu'il y a d'autres papas qui ont dû vivre ça aussi. Et tu parles aussi de cette double émotion. Tu es en colère, tu es énervé et en même temps, tu es en joie. Le retour à la maison, comment ça se passe du coup avec les enfants? Tu te sens prêt, tu te sens pas prêt? Vous avez eu les bons premiers conseils, puis tu as tes parents, tu as ta maman qui est là.
Ouais. Non, moi, mon rapport à la paternité, c'est... En réalité, on m'a dit, dès que je suis tombé enceinte, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup actif, qui a beaucoup de choses, on m'a dit, ça va changer, tu ne vas pas pouvoir faire autant de choses que tu peux faire. Plein de trucs comme ça où on me dit, c'est chaud d'avoir un enfant. Du coup, en fait, comme je ne suis pas père, je me dis, ça va être chaud. Et en réalité, moi...
Ça glisse.
Ouais, franchement... ça glisse. Hein. Au bout d'un moment, même quand elle, quand traite, au bout d'un moment, elle, chez, elle me la laisse pour je sais pas, chercher un truc au magasin. Ou elle avait un autre truc à faire avec une copine. Elle me dit, ouais, ça va aller. Je dis, bah ouais. Bah, si à la fin, si elle pleure, c'est soit à la fin, soit elle est fatiguée. Et, bah, c'est à la fin, il y a du lait. Et puis, si elle est fatiguée, puis je la berce. Et puis voilà, tu vois.
En la fait, vie... tu transmets un peu ta zen attitude.
Ouais, et en plus, vas-y, tu vois, je sais pas, on m'a offert des livres. Je ne suis pas quelqu'un qui lit ou regarder des trucs. Je suis mon éducation comme je le ressens à l'instinct, tu vois. Je ne dis pas, il y a de bonnes ou mauvaises éducations, mais personne ne va me dire. On peut me donner des conseils, mais j'éduque mes enfants comme j'ai envie de les éduquer, avec moi et sa mère, tu vois. Tant qu'on est en accord tous les deux, je dis pas que je suis le meilleur des pères, mais en tout cas, j'aime mes enfants et je fais à ma sauce, en fait, en vrai.
Ouais. Et tant que tu t'en occupes et que tu subviens à leurs besoins du mieux que tu peux,
ouais, voilà.
En tout cas, tu le fais.
Voilà.
C'est-à-dire que t'es le papa qui prend en charge l'éducation de son enfant dès les premiers jours. Donc, Amel, elle peut sortir, ouais. Tu gères le bébé. Comment, avant même de rentrer dans justement maintenant les prises de position en tant que parent dans les vraies décisions, t'as une deuxième fille, il me semble. Est-ce que elle, sa naissance, elle est désirée? Est-ce qu'elle arrive aussi un peu comme ça?
Nous, comme ça aussi.
Comme ça aussi.
Ouais.
Hop. Elle pointe...
On était séparés même.
Ah, vous étiez séparés.
Ouais.
Ok. Du coup, vous étiez séparés. Bah, j'imagine que vous êtes retrouvés.
Ouais.
Et cet enfant arrive.
Ouais. Ah, mais même ça, c'est marrant.
Vas-y,
parce que après, moi, j'étais pas forcément ma vie. Mes proches ou mes amis, ils connaissent. La mère de mes enfants et moi, donc ils connaissent notre situation, etc. Et du coup, je crois qu'un anniversaire, parce qu'elle est née en novembre, tu vois, un anniversaire en septembre, fin septembre, j'arrive avec Amel, tu vois. Et genre, mes potes, ils regardent. Ils me disent, mais parce qu'en fait, il s'est passé juillet, août, du coup, tu vois pas tout le monde, etc. Ils disent, non, mais elle est enceinte. Après, je dis, ah ouais, j'ai oublié de vous le dire. Je dis, ouais, l'enceinte, tout, etc. Tout. Et tu vois, c'est comme ça qu'il découvre qu'elle était enceinte. C'est archi marrant. Il me dit, mais t'es un ouf. Je dis, bah, c'est la vie, gars.
C'est comme ça.
Enfin, quand il dit, c'est un ouf, c'était content, tu vois, mais genre, tu ne l'as pas dit. Je dis, oh, les gars, tout va bien.
C'était.
Tout va bien.
Tes preuves de danse, moi, ce que j'aimerais savoir, du coup, c'est aujourd'hui, donc vous avez 3 enfants. Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe aussi avec ton métier? Est-ce que pendant... Tu veux bien nous expliquer? Parce que du coup, tu es un danseur professionnel, tu as ta propre école de danse, tu as les enfants qui sont encore jeunes. Comment tout ça s'articule? Est-ce que tu nous en parles pendant...
J'ai la chance de faire un métier qui est un métier artistique et culturel, et du coup, qui fait que je suis à peu près libre, ou à peu près free. Et en plus, qui est dans un cadre souvent ludique, qui fait que je peux amener mes enfants. Je ne sais pas, comme si je travaillais dans un bureau à 9-18 heures et on est devant un écran, où c'est compliqué de ramener mes enfants. Là, mon job, c'est de donner des cours à d'autres enfants ou à Urban Town dans ma structure. C'est moi qui gère on gère la structure à 3 avec Timothée et Amir et on fait à peu près ce qu'on veut. Du coup, cette chance-là est que bah, mes enfants, je peux les amener si besoin est. Et en réalité, le cadre, il est plutôt cool. Donc, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de les amener dans mon lieu de travail. Tu vois.
Ouais, bien sûr. Est-ce que je pense que tu peux nous parler de justement des qualités qu'on trouve chez un danseur de hip-hop et en quoi ça peut être un vecteur dans l'éducation de tes enfants, si c'en est un?
Je dirais la culture. Déjà, moi, je pense que sur l'éducation des enfants, y a pas, c'est pas forcément le fait que je sois danseur du hip-hop ou pas. Quand tes parents avec ton métier, du coup, étaient avec ton métier ou ta vie, etc. Tu vois. Et du coup, pour moi, c'est pas... surtout quand ils sont petits, je m'adapte pas à mes enfants. C'est les enfants qui s'adaptent à mon rythme de vie, en fait, en réalité. Bien qu'il faut qu'ils se couchent, je les couche à 20h, ils ont les écoles, et tout, l'école, etc. Mais... pour moi, bah, quand j'ai des compétitions ou que j'ai des spectacles, bah, mes filles, elles peuvent venir et je trouve ça plutôt dans un cadre plutôt cool que, voilà, quoi. On va dire, c'est là-dessus, en termes de culture, c'est que d'une, elles se déplacent beaucoup, elles voyagent beaucoup, enfin, beaucoup, quand c'est possible, et on est beaucoup en extérieur. Je suis rarement, moi, je suis une pile, donc je reste jamais, je suis pas casanier. Quand il y a un spectacle, je vais avec elle. Quand il y a un, quand il y a des trucs à faire, je vais avec elle. Et quand j'ai rendez-vous et que j'ai pas le choix, je dis à mes rendez-vous, je viens, mais j'ai mes enfants. Je sais pas, je mets pas ça comme un, c'est pas un frein pour moi.
Pour toi, c'est pas un frein. Tu vois. Dans l'éducation que tu as reçue de tes parents, et Kamel a reçu aussi, inévitablement. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Quelles sont les valeurs que vous gardez et transmettez? Et quelles sont celles où, en tout cas, peut-être on s'efforce de ne pas reproduire?
Je transmets la rigueur, moi.
Ouais.
La famille, la place de la famille qui est très importante. Le fait de se rassembler. Je trouve ça très important. Le fait de... Moi, je suis très famille. Et je suis très rassemblement. Chez nous, on faisait la fête pour un oui ou pour un non. Donc, toujours souriant. Je trouve ça ultra important d'être. Et le respect aussi de la hiérarchie. Mon grand frère, c'est mon grand frère. Et je ne vais jamais manquer de respect. Et jamais que je vais manquer de respect. Et vice-versa pour mon petit frère. Il y a une certaine hiérarchie qui est faite comme ça. Mais tu écoutes ton grand frère. Ouais, c'est comme ça. Et c'est ultra important. Je pense que sinon, après, c'est n'importe quoi. Quand t'as les papis, tu vous vois, tonton, tata, les amis, c'est tonton, tata, on respecte. Et les tontons, tata, ils peuvent t'éduquer aussi parce que j'ai confiance en eux. Donc ça, c'est ultra important, on respecte aussi. Et entre enfants, vous recevez entre beaucoup d'enfants, vous pouvez être 20 à la maison, c'est pas grave. Moi, j'aime bien qu'il y ait du monde chez moi, que ça vit. Même si je suis fatigué, on me demande comment tu fais. Des fois, j'ai la fille à mon frère. Après, des fois, j'ai deux autres enfants. Des fois, je me suis retrouvé avec un week-end, moi, tout seul à gérer. Six enfants, on me dit comment tu fais. Je dis, oh, à partir du moment où mes filles, elles sont contentes, moi, ça va, moi. Tu vois, ça peut être fatigant, mais rien ne vaut. Moi, j'ai besoin de... Il ne faut pas que ce soit calme chez moi. Il faut que ça vive. Tu vois. Il faut
que... T'as besoin de cette
vie, que ça rigole,
cette...
qu'on sorte. Cette énergie. Ouais, c'est important. C'est positif. Et d'être casanier, de te renfermer sur toi-même, il faut partager. Faut communiquer, faut être ensemble, c'est important.
Ouais. Amel, qu'est-ce qu'elle transmet, elle, comme valeur?
L'amour.
L'amour?
Ouais, la maman, je pense que c'est là, cet amour-là, les câlins, cette attention, cette bienveillance, cette douceur. C'est ce qu'elle transmet, c'est ce qui est le plus important. Cet amour, cette. La maman, je trouve qu'elle est douce toujours, tu vois.
Elle a une douceur.
Ouais, elle a une douceur que nous, on n'a pas forcément. Pour moi, en tout cas, sur nous deux, c'est moi qui vais être un peu plus strict, en fait, en réalité. Mais un enfant, pour se développer, je pense qu'il a besoin de l'amour des deux.
Bien sûr.
Enfin, il a besoin de c'est pour ça qu'on se complète, en fait, en réalité. C'est pour ça qu'on est parents. Il y a le père et la mère, chacun son rôle, chacun son positionnement. Et apparemment, après, t'as pas besoin de le définir, mais je pense que chacun connaît sa place et chacun sait ce qu'il a à faire, en réalité.
Vous êtes complémentaires, tu dirais?
Ouais, et je pense qu'une bonne parentalité, c'est un père et une mère qui est complémentaire. Si c'est pas complémentaire, il y a un problème quelque part. T'as besoin de l'amour, soit de la mère ou du père, je sais pas comment on coupe, tu vois, mais t'as besoin aussi d'une rigueur de l'un de l'autre, etc. Donc des fois, tu vas dire, ouais, mais je fais toujours la police, que ce soit le mère ou la père, mais il faut qu'il y ait cette complémentarité. Et c'est pas une personne, c'est les deux qui font que. En tout cas, c'est ce que je pense, que ton enfant s'épanouit.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été transmises à l'un ou à l'autre que vous souhaitez surtout pas transmettre à vos enfants, qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous dites franchement, je ferais jamais ça avec mon gosse?
Pour moi, non.
Non. Et Amel?
Amel, elle vous le dira. Hein. Je peux pas le parler, je peux pas le dire à sa place.
Elle a jamais verbalisé un truc où elle se dit franchement, tu sais, il y a des trucs bateaux, genre.
Non, elle a été victime d'abandon familial et je pense qu'elle n'abandonnera jamais ses enfants.
C'est très important pour elle.
Et c'est très important. C'est très important pour moi. Moi, mes filles, quand je compte mes filles, je compte aussi ma belle-fille, tu vois, parce que je grandis avec elle, en fait, en réalité. Quoi qu'il arrive, en fait, en réalité, si je dois transmettre un truc à mes enfants, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, en vrai, aimez-vous, comme on dit, une phrase de la Bible, c'est aimez-vous les uns les autres. Tu vois, quoi qu'il arrive, en fait, vous vous aimez entre vous, on est une famille. Et ça, personne ne le cassera, en fait, en réalité. Mmh. Que je sois ou pas avec votre mère, ou que votre grande sœur, elle ait fait un truc, ou que toi, la petite sœur, t'ait fait quelque chose, etc. Vous devez vous aimer et vous devez vous apporter du bien et vous protéger. Mmh. La famille, c'est ça, en fait. Il faut se protéger l'un et l'autre et s'aimer mutuellement l'un et l'autre. Et ça, c'est la base de tout, en fait, en réalité. Tu n'es pas là pour juger, etc. Tu aimes ta sœur et vice-versa. Et on respecte cette hiérarchie-là, etc. Mais quoi que tu fasses, en tout cas, moi, mes filles, quoi qu'elles fassent, je les aimerais. Tu me braques, bon, tu es quelqu'un, je t'aimerais parce que tu es mon enfant. Et bien, c'est pareil pour vos sœurs, etc. Et c'est le même sentiment que j'ai, moi, avec mes frères. C'est-à-dire que malgré dans les difficultés, ils me retrouveront dans le bonheur, dans les trucs positifs, je serai toujours là pour eux. Et bien, pour mes filles, je veux que vous soyez toujours là. Vous êtes trois sœurs, vous êtes toujours là, l'une envers l'autre. Quoi qu'il arrive, quand elle n'est pas bien, il faut que ta grande sœur puisse s'épouser sur toi et vice-versa, etc. Et vos cousines aussi. Une famille, c'est la base de tout. Tu as les amis qui gravitent autour, etc. Mais la famille, ce lien-là que vous avez avec, gardez-le. Mmh.
C'est très important ce que tu dis, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais par moment, tu le sais, et ça sera sur le raconte ta parentalité plutôt d'Amel, si elle accepte de venir me rencontrer. Par moment, c'est important de couper aussi. Ça peut être important pour certaines personnes de couper avec sa famille.
Mmh.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non?
Si, si, si. Bah,
c'est important parce qu'il y a certaines personnes
qui. Il y a des gens.
Si
on est, si on n'est pas là pour. On est là pour. Moi, je suis quelqu'un d'ultra positif. C'est-à-dire que si tu vas voir quelque chose de négatif, vaut mieux aller à l'extérieur. Et oui, si c'est nécessaire de couper, bah, tu coupes, même si c'est difficile. Au final, tu te rends compte qu'avec du temps, que ça va t'apporter du positif, en fait, en vrai. Donc oui, je suis d'accord avec toi que c'est par moment, bah oui. C'est comme les amis, en fait, en vrai. Si quelqu'un ne t'apporte pas du bien, ça sert à quoi de... Il faut être un peu égoïste et il faut penser à soi.
C'est un excellent mot quasiment de la fin. Avant, j'ai deux dernières questions. Vas-y. En 3 minutes. On a senti, en tout cas, moi, je le ressens fortement, tes valeurs d'amour, de bienveillance, de famille. Quelle est la place des familles dans ton chez Urban Talent? C'est important peut-être de souligner ça. Est-ce que
ouais, parce que de toute façon, quand tu travailles dans une association ou quand tu formes des jeunes, en réalité, on forme des jeunes à travers la danse, mais on forme des jeunes à travers leur vie. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce que ça se passe bien à l'école, on se fait attention à ce que ça se passe bien avec les familles, et que quand il y a une problématique, quand les parents ne peuvent plus y répondre, ils vont s'adresser à des personnes qui les ados vont pour les ados, les problématiques et les plus problématiques. Mais écoutez, c'est nous, puisqu'ils ont, on a cette accroche avec la danse ou cette accroche avec le rassemblement. Du coup, on est obligé d'intervenir envers la famille, et on a ce lien-là. Et qu'ils savent que s'ils ont des problématiques qu'ils n'arrivent pas à régler, nous, on va le positionner. On ne fait pas que donner des cours de danse. On les fait grandir. Il y en a certains, ils ont même plus de. Il y en a un, il a perdu sa mère. Il est tout seul, ou il y en a qui sont un peu perdus, ou il y en a que le discours parental ne va pas exister, ou sinon le cadre n'est pas assez. Enfin, en tout cas, tu leur apprends des valeurs de la vie, arriver à l'heure, être ponctuel, le dépassement de soi, etc. C'est un sport, c'est un sport ou une action comme la nôtre qui le fait ça, et ces valeurs-là, tu les transfères dans le cadre du travail, dans le cadre de l'école. À partir de généralement, quand tu es bon dans un truc, directement, tu le transfères. Parce qu'en fait, les valeurs ou les trucs principaux, tu les as travaillés en fait avec nous.
Exactement. Le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Ça passe vite, hein, une heure.
Ouais. Le mot de la fin. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je le dis tout le temps, si vous me connaissez, je suis positif et j'aime le côté positif. Bien sûr, il y a du sombre un peu partout, mais moi, je suis dans ma bulle et j'essaye de faire du bien autour de moi. Et si ce rayonnement positif, il peut faire du bien autour de moi, moi, j'ai gagné, c'est essentiel. Moi, ma mission pour moi, c'est ça. Après, chacun a sa place, chacun a envie de trucs. Je ne suis pas quelqu'un qui va dénoncer, qui va aller au front. Moi, juste du positif. Moi, je veux qu'autour de moi, tout le monde rigole et tout le monde soit en paix. C'est le principal.
Eh bien, Amine. Merci, Alexis. Merci,
merci à toi.
D'avoir témoigné. Je pense que ça fait du bien aussi aux auditeurs d'entendre des pères témoigner sur leur parentalité. Merci à Mon Paris FM de nous recevoir, de nous diffuser. Et puis, à très bientôt. Et comme on dit chez moi, personne ne doit rester à l'arrêt. Ciao.
Merci beaucoup.
Salut.